Les archives d'Afrique. Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Je suis un homme optimiste, et puis en principe aussi, mes partenaires, j'ai toujours comme principe de leur prêter toujours aussi beaucoup de sincérité, autant en tout cas de sincérité que je m'en attribue.
Il est certainement l'une des principales figures de l'indépendance du Sénégal. Mamadou Dia aura été de tous les grands rendez-vous qui vont aboutir à l'autonomie du jeune État au début de la décennie 60. Pourtant, la souveraineté acquise, il doit faire face à d'autres défis inattendus cette fois. Des obstacles un peu singuliers qui viennent de l'intérieur, de ses camarades du gouvernement, ceux avec qui il a obtenu l'indépendance du Sénégal.
Le peuple du Mali, par le vote unanime de ses représentants, proclame solennellement l'indépendance de la Fédération du Mali contre Mali.
Le 4 avril 1959, les fédéralistes sont allés au bout de leur logique, puisque malgré l'opposition et la pression de la Côte d'Ivoire, le Soudan et le Sénégal ont finalement créé la Fédération du Mali. Le départ du Dahomey et de la Haute-Volta n'a pas refroidi leurs ardeurs. Il faut maintenant organiser ces structures et choisir ses dirigeants. Qui de Léopold Sédar Senghor et de Modibo Keïta, les principaux leaders des deux composantes de la nouvelle fédération, va présider aux destinées de cet ensemble? Là, les choses ne sont pas vraiment évidentes. Il règne comme une espèce de tension sur ce point. Même les négociations pour les nominations des responsables de la fédération se déroulent dans un climat particulièrement lourd. Une ambiance où règne beaucoup de suspicions. Finalement, Modibo Keïta devient le chef de gouvernement et Léopold Sédar Senghor le président de l'Assemblée fédérale. L'indépendance est proclamée le 19 juin 1960. Mais elle ne met pas fin aux difficultés d'organisation qui règnent. Fin juillet 1960, la nomination du chef d'état-major de la Fédération du Mali provoque un premier accroc sérieux dans le fonctionnement des institutions. Lorsque le Conseil des ministres du gouvernement fédéral arrête la nomination du colonel Soumaré au poste de chef d'état-major, Mamadou Dia, ministre de la Défense, qui avait proposé le colonel Fall, refuse de contresigner le décret comme l'exige la Constitution fédérale. Il proteste ainsi contre ce qu'il considère comme un empiètement sur ses prérogatives. Ce refus sera lourd de conséquences pour la suite des événements. Il va surtout contribuer à exacerber les antagonismes entre les deux camps qui, bien qu'en faveur de la fédération, souhaitent contrôler son gouvernement. Sur le terrain en ce mois d'août 1960, Mamadou Dia effectue de fréquents déplacements à l'intérieur du Sénégal pour s'assurer du soutien des militants du parti. Aux premières heures du 19 août, des camions déversent quelques-uns d'entre eux, venus, dit-on, spontanément pour soutenir leurs leaders nationaux. De son côté, Valdiodio Ndiaye, le ministre de l'Intérieur, s'assure des bonnes dispositions des responsables de sécurité et leur donne des instructions afin qu'ils soient prêts au cas où les choses tourneraient aux affrontements. Modibo Keïta, quant à lui, convoque à la hâte ce soir-là le gouvernement fédéral. Malgré l'absence des quatre membres du Sénégal, plusieurs mesures sont prises au cours de cette réunion, notamment la destitution de Mamadou Dia. C'est l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Modibo Keïta est accusé par les dirigeants sénégalais de tentative de putsch. C'est la nuit de l'éclatement de la Fédération du Mali où chaque camp va essayer de mettre l'armée et la gendarmerie de son côté. Un bras de fer qui va rapidement tourner à l'avantage du Sénégal. Léopold Sédar Senghor monte aussitôt au créneau pour dénoncer le coup de force de Modibo Keïta.
Citoyennes, citoyens du Sénégal, c'est le secrétaire général de l'UPS qui vous parle. Comme vous le savez, Modibo Keïta poussé par une ambition folle, vient de tenter un coup de force contre le peuple sénégalais. Il a destitué Mamadou Dia de son poste de ministre de la Défense du Mali. Or, il fallait pour cela l'approbation de la délégation du Sénégal à l'Assemblée fédérale. Il a mobilisé les troupes du Mali contre le peuple sénégalais, troupes dont la plupart sont des Sénégalais. C'est une autre illégalité, car la sécurité intérieure appartient aux États fédérés, non à l'État fédéral. Mais, comme chacun le sait, Modibo Keïta n'a cure de la légalité. À la force, nous répondons par des forces supérieures. Nous avons d'abord nos forces de sécurité qui, en ce moment, tiennent la situation bien en main à Dakar. Nous avons surtout nos forces populaires. À partir de cette heure, tous les militants de l'UPS sont mobilisés, tous les militants et toutes les militantes. Toutes les sections de l'UPS doivent se transformer immédiatement en milices populaires et s'armer. Sénégalaises, Sénégalais, l'heure est grave. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Jamais le Sénégal n'a été dans une telle situation. Il s'agit aujourd'hui, pour nous, Sénégalais et Sénégalaises, de défendre notre indépendance, cette indépendance dont les hommes politiques sénégalais ont été les principaux artisans en Afrique noire de langue française. Ce que l'on veut, vous le savez, on ne s'en cache pas. Ce que l'on veut, c'est vous coloniser. Ce que l'on veut, c'est vous réduire en esclavage. Vous ressusciterez aujourd'hui la bravoure et l'honneur de nos ancêtres, d'un Diadian Diaye, d'un Lakhdior Diop. Pour ma part, je suis prêt à mourir. Comme tous les leaders de l'UPS, vous aussi, n'est-ce pas, pour que vive le Sénégal.
À 1h du matin, cette nuit du 20 août 1960, les députés sénégalais réussissent à se réunir. Sur proposition de Mamadou Dia, qui vient de rentrer de Thiès et qui est à l'initiative de cette séance, l'Assemblée vote une série de lois capitales. La première abroge les transferts de compétences au bénéfice de la Fédération et proclame l'indépendance de la République du Sénégal. Mamadou Dia.
Réunis cette nuit en séance extraordinaire, dans son palais, l'Assemblée législative du Sénégal a abrogé tous les transferts de compétences qu'elle avait consentis au gouvernement du Mali. Elle a décidé que le Sénégal se retirerait immédiatement de la Fédération du Mali. Et elle a, dans un élan unanime, proclamé l'indépendance du Sénégal. Cette indépendance, le gouvernement la défendra avec détermination et contre quiconque oserait la menacer. Il en a les moyens. L'Assemblée législative a voté une loi instituant légalement l'état d'urgence. Et elle a donné plein pouvoir au gouvernement pour une période de 3 mois. Le gouvernement, j'en donne l'assurance, utilisera ses pleins pouvoirs pour asseoir l'indépendance sénégalaise sur des bases inébranlables.
Cette nuit-là donc, le Sénégal devient indépendant.
En présence de Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal.
Après cet incident qui a mis fin à la Fédération du Mali, un certain nombre de responsables soudanais est retenu, enfermé au Sénégal par le colonel français Pierre. Mais devant l'ampleur du mouvement qui se prépare au Soudan pour aller libérer leur leader, Modibo Keïta et ses camarades sont relâchés. Et c'est en héros qu'ils retournent à Bamako.
L'accueil chaleureux que vous venez de nous réserver est l'expression de votre détermination à maintenir coûte que coûte, envers et contre tout, l'intégrité territoriale de la Fédération du Mali. Cette expression nous réconforte, ou plutôt ajoute à notre détermination à non que les circonstances ont fait assister à Dakar à la tentative de sécession du gouvernement du Sénégal. Ce soir, je n'ai pas un discours à prononcer parce que je pense que dans les jours à venir, nous aurons suffisamment à vous dire et à dire au monde entier à situer les responsabilités et à en tirer toutes les conséquences.
Si pour Modibo Keïta, la Fédération du Mali ne peut ainsi disparaître, s'il continue d'entreprendre des démarches pour remettre les choses dans l'ordre, pour rétablir des relations avec ses partenaires d'hier, à Dakar, l'on est désormais tourné vers d'autres horizons. C'est donc de guerre lasse que Modibo Keïta proclame l'indépendance de la République du Mali, le 22 septembre 1960.
Auditeurs de Radio Mali, en ce jour mémorable du jeudi 22 septembre 1960, est née la République du Mali. Une république indépendante, absolument et totalement indépendante, de tous les liens politiques avec la France.
Ainsi se termine l'aventure de la Fédération du Mali qui avait fait rêver Mamadou Dia et tant d'autres fédéralistes. Si à Bamako, l'on a du mal à l'accepter, à Dakar, en revanche, l'on semble globalement s'en réjouir. Voici comment Maguette Lo, l'un des membres du gouvernement de Senghor, qui a vécu de l'intérieur l'éclatement de la fédération, nous expliquait les raisons profondes et inavouées de cette rupture spectaculaire. C'était dans la série d'émissions que nous avons consacrée au président Léopold Sédar Senghor.
La réelle cause, et d'abord je crois les causes fondamentales, c'est que nous étions d'options politiques différentes. C'est déjà une cause essentielle et fondamentale. Modibo et ses amis, RDA, marxistes scientifiques. Nous, sociaux-démocrates. Eh bien, naturellement, chaque fois que nous nous rencontrions, que nous discutions autour d'un problème, on ne pouvait pas être d'accord. Fondamentalement, un marxiste scientifique et un social-démocrate se connaissent. C'est difficile. Nous, nous pensions être des démocrates. Nous voulions donc de deux États qui se rencontrent, qui discutent des problèmes, qui prennent des décisions ensemble avec, dans le fond, une certaine manière de traiter les problèmes de façon démocratique. De l'autre côté, on voulait d'un État unitaire, qui imposait sa volonté, et il fallait obéir, c'est ça qui correspondait en vérité à l'option des uns et des autres. Ça, c'est un problème. Secondaire, lorsque, bon, on a fait malgré tout la Fédération du Mali, nos amis maliens sont venus, on les a installés dans les villas, dans des belles maisons et tout le reste, ça semblait choquer les Sénégalais, d'une certaine manière, parce que, encore une fois de plus, tout le monde n'est pas au même niveau. Nous, responsables politiques ou militants, nous savions que c'est tout à fait normal, tout à fait juste. Mais le peuple, lui, considérait que oui, vraiment, voilà, on a été les donner des plus belles maisons, je m'excuse, à ces sauvages qui viennent du Mali. Bon, alors, la réaction des Maliens, ces petits bourgeois qui ont accompagné les colons pour pacifier l'Afrique, ils ne valent pas notre attention. Ils sont méprisables. Ça, c'était les Sénégalais. Vous voyez donc la différence dans le marché. Ensuite, il y en a qui sont allés jusqu'à dire qu'ils interdisaient dans leur département de parler le Wolof, qui est la langue quand même du Sénégal, d'une façon générale, enfin la majorité des machins, c'est la langue Wolof. Mais qu'il fallait ou parler bambara ou français, pour les gens qui se disaient anti-français. Ils imposaient à leur département de ne pas parler Wolof, mais de parler bambara ou français, à les comprendre. Ça, c'est un des éléments. Mais enfin, la rupture en elle-même, à un moment donné, il y a eu rencontre entre les partis. On s'est partagé les fonctions. La fédération, le président de la fédération, ce sera Modibo, le président de l'Assemblée fédérale, ce sera Senghor, le ministre de la Défense, ce sera Mamadou Dia, etc. Enfin, bref, on a fait le partage des responsabilités entre. Un partage assez équilibré, à mon sens, à partir du bureau politique. Mais, encore une fois de plus, intervenant, vous savez, la force des idéologies. Quand Modibo s'est installé avec son entourage, avec leur manière et leur conception de la construction d'un État ou d'une nation, et ça ne pouvait pas correspondre à notre vue. Ils ont entrepris, en vérité, je le dis honnêtement, de vouloir embrigader un certain nombre de jeunes de Dakar, de vouloir s'allier avec des laministes socialistes et Sifio. Ils ont peut-être estimé qu'en se mettant ensemble, ils pourraient imposer au parti, à notre parti, l'UPS, de changer Senghor comme président de la fédération. Modibo n'en voulait pas, peut-être qu'il fallait mettre la médaille. Ils ont créé donc des comités qu'ils ont appelés des comités de soutien à la Fédération du Mali ou des comités de soutien à Modibo qui était le président du conseil. Ils ont été même à l'intérieur du pays pour contacter des marabouts, pour les conduire à partager leur opinion. Senghor fait son discours, le président général. Et Modibo se lève pour attaquer violemment, je ne dis pas vigoureusement, mais violemment les thèses de Senghor sur la coopération avec la France, sur le système éducatif que nous avions proposé, sur peut-être la méthode de développement, etc., etc. Un discours assez violent. À partir de là, c'est lui donc, après le congrès, nous sommes partis tous avec le sentiment que ça allait certainement éclater. On s'est réunis dans la nuit, on a proclamé la rupture de la Fédération du Mali.
Du côté malien, l'on ne fait pas exactement la même analyse. Pour Modibo Diagouraga, qui a écrit justement une thèse sur Modibo Keïta, les raisons de la rupture sont tout autres. Pour lui, Modibo Keïta n'a pas tenté un coup d'État. C'est un alibi.
Je ne pense pas qu'il s'agissait d'une tentative de coup d'État parce que Modibo Keïta était le président du gouvernement fédéral et Senghor était le président de l'Assemblée fédérale. Bon, il n'y avait pas de chef d'État, il n'y avait pas de président de la Fédération du Mali. Alors je ne vois pas comment Modibo pouvait faire un coup d'État contre lui-même. Je pense qu'il y a eu un problème de tempérament, un conflit de personnalité entre Senghor et Modibo. Et dans le cadre des lois et des accords qui avaient été signés avec la France, Modibo, en tant que chef du gouvernement fédéral, a voulu prendre certaines dispositions pour éviter le désordre. Bon, Senghor était libre de l'interpréter comme il le voulait, hein. C'est sa liberté.
Je sais que les partisans de Modibo Keïta n'ont jamais voulu reconnaître la thèse selon laquelle les ambitions de Modibo Keïta seraient à l'origine de l'éclatement de la Fédération du Mali. Une thèse largement soutenue du côté sénégalais, naturellement. Alors, monsieur Amadou Sédou Traoré, vous qui étiez un de ses proches, puisque vous travailliez avec Modibo Keïta à cette époque-là, quelle est selon vous la raison réelle de l'éclatement de la Fédération du Mali?
Premièrement, la Fédération du Mali contredisait une ligne politique française. La France avait choisi de balkaniser l'Afrique. La Fédération du Mali allait à contre-courant de cette politique de balkanisation. Deuxièmement, la Fédération du Mali portait du point de vue ligne politique un certain nombre de lignes d'action qui s'opposaient également à la politique française. Je veux faire allusion d'abord à la guerre d'Algérie, où la Fédération du Mali avait une position tranchée en faveur de la libération de l'Algérie. La Fédération du Mali avait une position également sur la monnaie, parce que la Fédération du Mali voulait prôner l'idée d'une monnaie commune en Afrique de l'Ouest, et c'était tout à fait à l'opposé de la politique monétaire française par rapport au franc CFA. La Fédération du Mali avait également une attitude d'indépendance nationale et de développement autonome, contraire à la ligne à l'époque de développement sous direction, sous tutelle, que nous dénoncions à l'époque sous la forme de néocolonisation. Tout cela faisait que la Fédération du Mali dérangeait et son exemple était dangereux pour la domination française à l'époque. Donc, l'essentiel, je crois, des raisons pour lesquelles la Fédération du Mali a éclaté est venu de l'extérieur, plus précisément de la France gaulliste.
Mais pourquoi, d'après vous, Senghor s'en prenait à Modibo Keïta comme on l'a écouté à l'instant dans son discours?
Senghor était à l'époque dans une mouvance telle qu'il ne pouvait pas agir autrement qu'une personne disponible à l'exécution d'une certaine politique française en Afrique à cette époque-là.
Quoi qu'il en soit, Mamadou Dia, qui est devenu le premier ministre du Sénégal, va, malgré la tension qui persiste entre les deux nations de l'ancienne fédération, garder la porte ouverte à la coopération. Mais comment compte-t-il renouer le dialogue? Est-ce encore possible après cette passe d'armes? On en parle dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique que nous lui consacrons. On se retrouve donc juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
Archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Vous connaissez l'événement.
le Sénégal a été amené à prendre son indépendance, à quitter la Fédération du Mali dans des circonstances qui n'ont pas dépendu de notre volonté. Le fait, aujourd'hui, c'est que le Sénégal est sorti de la Fédération du Mali. C'est que le Sénégal est aujourd'hui un État indépendant. Nous pensons d'ailleurs que cette indépendance ne se traduira pas par une rupture des liens avec les autres États africains et en particulier avec notre partenaire soudanais.
La Fédération du Mali, qui consacrait la volonté de certains leaders africains francophones désireux de quitter la communauté française pour former une force afin de mieux répondre aux grands ensembles qui se constituent, n'a finalement pas résisté aux appétits de pouvoir et aux ambitions de certains de ses leaders. Elle est morte dans la douleur et la division. Suite de notre série d'archives d'Afrique, spéciale Mamadou Dia. Mamadou Dia, qui est devenu le premier ministre du Sénégal, veut, malgré la tension qui persiste entre les deux nations de l'ancienne fédération, garder la porte ouverte à la coopération. Même s'il reste très prudent sur la forme qu'elle doit prendre.
À mesure où nos partenaires soudanais l'acceptent, nous souhaitons établir des relations économiques. Je pense qu'il y a dans ce domaine-là un vaste champ de coopération. Non seulement d'ailleurs avec le Soudan, mais même avec tous les autres pays africains et avec les autres pays du reste du monde, dans la mesure où ils veulent de la coopération du Sénégal. Naturellement, même pour la coopération, nous ne sommes pas pour la contrainte, nous ne sommes pas pour contraindre qui que ce soit. Pas plus d'ailleurs les pays africains que les pays européens.
Plusieurs décennies après, voici comment Mamadou Dia explique à sa manière les raisons de l'éclatement de la Fédération du Mali.
C'était difficile de créer une fédération à deux. De toute façon, sur le plan structurel même, l'entreprise était difficile. Une fédération à deux est toujours sujet, n'est-ce pas, à des tiraillements, il y a des pesanteurs. La bicéphalie, c'est toujours difficile. Nous l'avons vu même dans le cas du Sénégal, lorsque nous avons constitué notre fameuse république bicéphale avec une présidente du conseil et un président du conseil. Alors, à plus forte raison, n'est-ce pas, lorsqu'il s'agit de deux États, vous voyez, c'est encore plus difficile. Mais je crois qu'il y a eu aussi des excès du côté de nos partenaires du Mali. Une certaine tendance aussi à vouloir tirer vraiment la couverture à eux. Je dirais même une certaine tendance à nous coloniser le Sénégal.
Est-ce que vous avez des faits précis?
Ça s'est manifesté.
Des faits.
Oui, il y a eu des faits. Rien que le cas de nos correspondances, par exemple, même nos correspondances. Alors, pas parce que la poste relevait du Mali, d'un ministre du Mali qui était malien. Toutes nos correspondances, Senghor, moi, les leaders, tous les responsables du Sénégal, bon, leur correspondance était ouverte. Ouverte, contrôlée, censurée. Censurée. Voilà. Un exemple, n'est-ce pas? Un exemple parmi tant d'autres. Alors, donc, il y avait manifestement ces tendances-là qui ont fini par créer un climat, une tension. Et puis, est venu s'ajouter maintenant, alors, le fait décisif, c'est le changement de position de Modibo Keïta à l'égard de la décision qu'ensemble nous avions prise, le partage des responsabilités. On avait dit au départ, ce sera Senghor, le président de la fédération, et puis je pense Modibo comme chef de gouvernement. Alors Modibo est revenu sur cette décision. Alors c'est ça qui a ouvert le conflit.
Le calme revenu donc au Sénégal après la tension, les rivalités, les divisions nées de la crise de la Fédération du Mali, le nouveau chef du gouvernement peut se mettre au travail. Son premier chantier est économique. En s'appuyant sur les dogmes du socialisme auquel il croit, il va mettre en place le premier plan de développement du Sénégal.
Par fidélité au programme du parti, qui s'appelait en ce moment la UPS, d'abord que j'ai tenu à réaliser le socialisme en mettant en place les structures d'accueil nécessaires. C'est-à-dire qu'il fallait supprimer, liquider complètement l'économie de retraite au Sénégal, faire disparaître les intermédiaires, pas seulement les intermédiaires locaux, qui étaient les traitants sénégalais, mais également les intermédiaires étrangers, les Libano-Syriens d'un côté, et puis aussi les éléments français et autres, qui avaient la haute main sur toute l'économie sénégalaise. Évidemment, l'application d'un tel programme n'était pas de nature à plaire, et évidemment, cela m'a valu toute une coalition. Une coalition d'intérêts. Et surtout, il fallait également assainir, continuer d'assainir les mœurs, parce que le socialisme ne peut pas se faire dans un pays qui continue de pratiquer des habitudes de laxisme sur le plan de la gestion.
Effectivement, en touchant aux privilèges des hommes d'affaires, des lobbies qui tenaient des secteurs entiers de l'économie, Mamadou Dia ne pouvait que créer contre lui une coalition. Mais il ne redoutait pas grand-chose, puisqu'il savait qu'il avait un compagnon de lutte, un ami de poids sur qui il pouvait s'appuyer, même s'il ne se voyait plus aussi souvent qu'avant, son camarade Léopold Sédar Senghor, qui en raison de leurs occupations respectives, particulièrement pesantes, savait qu'il pouvait compter sur son appui. Pour mieux s'imprégner des pratiques économiques socialistes, Mamadou Dia va effectuer des voyages dans de nombreux pays qui partageaient cette idéologie. Il va par exemple aller à l'école yougoslave.
Nous empruntons des voies similaires, des voies qui sont comparables sur le plan du socialisme, en ce sens que les Yougoslaves n'acceptent pas de copier servilement un système socialiste imaginé pour tel pays ou pour telle époque, mais ils s'efforcent de repenser le socialisme, de repenser le marxisme et de l'adapter aux réalités yougoslaves. C'est ce que nous faisons au Sénégal et c'est ce que nous appelons la voie africaine du socialisme.
En réalité, dans cette période de 1960, début 1961, Mamadou Dia bénéficie d'un réel pouvoir et d'une grande liberté pour mettre en œuvre son plan de développement. Pendant que le président Senghor fait surtout de la représentation, lui multiplie les déplacements à l'étranger, diversifie les partenaires du Sénégal en matière économique. Mais il ne se limite pas qu'à cela. Il évoque également des questions de politique internationale.
Des hommes d'État, de l'Afrique d'expression française précisément, des hommes de pays auxquels la France a donné la souveraineté, ont fait escale aujourd'hui même à Paris. Il s'agit d'abord de M. Mamadou Dia, président du Conseil du Sénégal, qui revenait de Rabat, après avoir été à Tunis, l'un des trois mages qui ont rencontré le président Bourguiba et les leaders du FLN.
Pensez-vous que les entretiens que vous avez eus au Maroc puissent favoriser une solution africaine ou une motion africaine sur le problème algérien?
Je ne parlerai pas de motion africaine, mais je pense en effet que les éléments que nous avons pu rapporter, aussi bien des entretiens que nous avons eus à Tunis, qu'à Rabat, il doit être possible de dégager une attitude commune des pays africains. En tout cas, cela demeure notre objectif. Et je crois même que le problème est assez important, que c'est très sérieux et qu'il faudrait peut-être, si possible, avancer la date qui était prévue pour la réunion de Brazzaville.
Mamadou Dia est également de la plupart des grands rendez-vous internationaux. S'il laisse surtout le président Senghor s'occuper des grandes orientations diplomatiques, cela ne l'empêche pas d'exprimer le point de vue de son pays et de son gouvernement sur les crises que traverse le continent en ces débuts de la décennie 60.
Ici Bruno Rollereau qui vous parle de Nouakchott. Nouakchott où se poursuit la visite officielle du président Mamadou Dia, président du Conseil de gouvernement sénégalais. La délégation mauritanienne et la délégation sénégalaise se sont mises au travail hier après-midi après que le président de la République islamique de Mauritanie, maître Mokhtar Ouldada, ait souhaité la bienvenue à ses hôtes, leur rappelant que le Sénégal et la Mauritanie ont toujours été des États frères, et que les Mauritaniens n'oublieront jamais que, pendant la période dite coloniale, le Sénégal a offert l'hospitalité à la Mauritanie en lui prêtant une partie de son chef-lieu. Le président Mamadou Dia prit aussi la parole pour célébrer l'amitié mauritano-sénégalaise et souligner qu'entre les deux pays voisins, entre les deux pays frères, il n'y a aucun contentieux, seulement quelques problèmes concrets pour lesquels il faut trouver des solutions concrètes. Enfin, le président Mamadou Dia exprimait cet espoir.
Les conversations que nous allons avoir ici, d'abord
entre nous-mêmes,
et ensuite au niveau de nos ministres et de nos experts, constitueront une contribution importante, non seulement à la coopération entre nos deux pays, mais au renforcement de l'unité africaine à laquelle nous travaillons, comme vous le rappeliez tout à l'heure, opiniâtrement, côte à côte, dans ce groupe réaliste et efficace qu'est l'Union africaine et malgache.
Mamadou Dia sera également l'un des principaux artisans de la création de la multinationale Air Afrique, une initiative panafricaine qui va permettre de rallier toutes les capitales continentales sans plus passer par Paris ou Londres. Une véritable initiative d'intégration régionale.
Parce que je ne pensais pas seulement au Sénégal, mais également, n'est-ce pas, à toute l'Afrique. Et c'est au moment d'ailleurs où nous constituons, nous essayons, n'est-ce pas, de remembrer l'Afrique, ce qu'on a appelé autrefois l'Union africaine et malgache, n'est-ce pas, ensuite l'OCAM. Bon, et c'est dans le cadre, n'est-ce pas, de ces restructurations nouvelles également, bon, que j'ai réfléchi aussi à des structures adéquates. Ainsi, il fallait une banque pour toute l'Afrique, même que j'avais conçu une banque de développement pour le Sénégal, je pensais qu'il fallait également quelque chose sur le plan africain. De même, pour l'histoire des liaisons. Bon, aujourd'hui encore, d'ailleurs, c'est un problème. Les capitales africaines, n'est-ce pas, ne sont pas liées. Si vous prenez un avion pour aller au Cameroun, parfois il est plus facile de passer par l'Europe, n'est-ce pas, pour aller au Cameroun ou pour aller au Zaïre. D'où, n'est-ce pas, la création de Air Afrique. Et si Air Afrique avait véritablement joué son rôle, s'il s'était développé, comme nous l'avions conçu, eh bien, je pense qu'aujourd'hui, ce serait autre chose. Malheureusement, je crois qu'il a manqué, sa vocation.
Cette mobilisation tous azimuts du président du Conseil du gouvernement ne plaît pas toujours à certains de ses camarades politiques qui estiment de plus en plus qu'il empiète sur les prérogatives du président de la République, notamment ceux qui trouvent ces initiatives dangereuses pour leurs privilèges. L'autre grand chantier auquel il va s'attaquer est celui de la laïcité. Un autre sujet brûlant dans un pays à 98% musulmans, où les chefs religieux, les marabouts, ont un poids politique énorme et bénéficient des avantages, des privilèges de toutes sortes. Il veut changer les mœurs, mettre en place les structures, les pratiques d'un islam moderne.
Il ne faut pas que la religion serve de prétexte, et surtout la religion de la majorité, serve de prétexte, n'est-ce pas, à créer aussi des privilèges. Et pour cela, il fallait une réforme. Il fallait que les musulmans, n'est-ce pas, du Sénégal, d'abord, sachent ce que c'est que la religion musulmane. Et pour cela, par conséquent, il fallait une certaine éducation islamique. Donc, mon projet, c'était d'insister sur cette éducation islamique. D'où la décision que j'avais prise d'introduire l'enseignement de l'arabe à titre facultatif dans les écoles primaires, et même dans les lycées, alors que juste là, n'est-ce pas, l'enseignement arabe était proscrit. Deuxièmement, accorder également des bourses dans les pays musulmans, Maroc, Algérie, au Caire, en Arabie Saoudite, etc., de façon à former des cadres qui soient capables ensuite de venir ici vraiment pour enseigner l'esprit de l'islam et former des gens, n'est-ce pas, à l'éducation, à la culture islamique. Cette réforme allait toucher également un certain nombre de structures sur le plan local. Les marabouts utilisaient, et je crois qu'ils utilisent encore d'ailleurs, ce qu'on appelle les chants du mercredi, les chants d'Al-Arba. les champs de mercredi où l'on convie les soirs à venir pour cultiver le champ du marabout. Bon, je n'ai pas décrété la suppression des champs, mais j'ai prévu la création d'une institution qui aboutissait à sa suppression indirectement. À travers les coopératives, il y avait ce que j'appelais aussi les champs collectifs.
S'attaquer aux privilèges des chefs religieux était évidemment quelque chose de dangereux, d'extrêmement risqué pour le président du Conseil qui se mettait ainsi à dos les forces religieuses. Désormais donc, il est de plus en plus isolé, encerclé. Surtout qu'avec le président Léopold Sédar Senghor, les rapports sont de plus en plus froids. En raison de leurs occupations, de leur calendrier particulièrement chargé, ils ne se voient plus aussi souvent qu'ils le faisaient avant. En plus, le protocole et certains amis du président Senghor créent un climat de tension entre les deux têtes de l'État. D'autre part, Léopold Sédar Senghor n'est pas vraiment favorable à la radicalisation de l'économie décidée pourtant au sein du parti. Il ne le fait pas savoir à son ami Mamadou Dia, bien sûr. Il n'en discute quasiment pas. En cette fin d'année 1962, des situations de tension se multiplient, comme celle où, au niveau de l'Assemblée nationale, les députés profitent de l'absence de Mamadou Dia pour voter une augmentation de leurs indemnités, alors que l'on venait de bloquer les salaires des fonctionnaires et des ministres. Léopold Sédar Senghor avait donné son approbation pour cette augmentation. Mais lorsque Mamadou Dia est revenu au pays, il a convoqué une réunion du Conseil national pour revenir sur cette mesure. Dans cette bataille pour l'austérité et pour l'orthodoxie au socialisme, Mamadou Dia est soutenu par le parti. Mais le gouvernement et l'Assemblée ne lui sont pas totalement acquis. C'est surtout avec son ami Léopold Sédar Senghor que les choses ne sont pas vraiment claires. La rumeur partout au Sénégal veut que les deux soient brouillés. Fatigué de ce climat, Mamadou Dia va aller voir Senghor pour qu'il se parle franchement, les yeux dans les yeux. C'était lors d'un voyage à Paris dans le bureau de Guy Habert, l'ambassadeur du Sénégal en France. À la question de savoir ce qu'il lui reprochait concrètement, après un long échange poli, le président de la République lui dit ceci. « Personnellement, je n'ai rigoureusement rien à te reprocher à toi, Mamadou Dia. J'en veux à un certain nombre de tes ministres. Je ne te demande pas tous leur départ du gouvernement. Il y a que je trouve Obey Diop absolument indésirable. Je ne peux plus cohabiter avec lui dans le gouvernement. Les deux autres, Val Diodion Dia et Joseph Mbaye, je te demande de les changer de ministère. » Fin des citations. À son retour à Dakar, Mamadou Dia va procéder au remaniement exigé par le chef de l'État. Mais les rapports entre les deux hommes ne vont pas retrouver la chaleur d'antan. Ce qui n'empêche pas Mamadou Dia de poursuivre son train de réformes et même de le renforcer. L'ambiance de plus en plus lourde à Dakar, où députés et religieux ne supportent plus la politique de Mamadou Dia, annonce une tempête particulièrement violente. Surtout que les commerçants libanais et certains groupes d'intérêt français qui voient leurs affaires menacées sont pressés de le voir tomber. Mamadou Dia, bien que soutenu par le parti, résistera-t-il à la bourrasque qui s'annonce? Son ami Léopold Sédar Senghor, plutôt discret jusque-là, volera-t-il enfin clairement à son secours? Nous en parlerons dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Mamadou Dia la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Mais vous pouvez bien sûr d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique « Les émissions » ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Vous avez également le moyen de réagir comme vous le faites depuis longtemps déjà sur notre page Facebook Archives d'Afrique, la première sur notre antenne avec ses 600 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.